RTF Limoges, le magazine culturel.
Joël Barret, bonjour. Merci de nous accueillir. Pour Radio Trouble Fête, notre radio à Limoges, retrouvaille super des années après.
Super.
Et puis voilà, t'es déjà avec ta guitare. Guitare, t'as commencé à connaître à quel âge ?
Alors moi, j'étais dans le bain avec ma sœur, ma grande sœur. Nous étions à la Batide, donc fils d'ouvriers, mais tous musiciens. C'était l'époque où les papas et les mamans... Mon papa avait joué de la clarinette, ma maman avait joué de la mandoline et du violon. Il y avait des instruments qui traînaient à la maison, mais on tombe dans l'époque John Baez. C'est pas rien, cette grande dame. Voilà, et donc ma sœur, qui est mon aînée, a toujours des idées modernes et dans l'air du temps. Donc John Baez, on achète des disques, vinyles, évidemment, à l'époque. Et puis, il est plutôt de bon ton de jouer de la guitare. Cet instrument qui nous vient quand même, après de nombreux siècles de voyage, qui revient en force par les États-Unis. Et avec les Anglais, les Beatles, les machins, les trucs et tout. Donc, guitare. Maman lui offre une guitare pour son brevet avec papa. Et cette guitare, comme Sylviane est très linguiste, elle a fait des études assez prolongées, elle est très historienne, elle est très... tout ça. Elle n'est pas très très musicienne, instrumentiste. Donc elle va laisser traîner cette guitare classique, d'un petit prix, ils n'avaient pas mis un prix énorme. Et il se trouve que je m'en empare 6 mois après. Mais c'est fou, quoi. C'est fou parce que je vais dans ma petite chambre et devant mon armoire à glace, j'ai mon lit, je m'assois dessus. Et c'est pas un détail parce que j'apprends les accords à l'envers en les voyant dans la glace. Et alors, d'autre part, ils ont laissé traîner dans la housse un petit accordeur, on souffle dedans, tu vois. Et moi... je vais rester comme ça 3 ans, complètement isolé dans une bulle du monde, du reste du monde. Je parle des instrumentistes que j'aurais pu rencontrer. Et je passe un temps fou sur cette guitare qui est toujours accordée. Je ne sais même pas comment je fais pour la garder accordée. Et puis ensuite, je vais au collège aux Anam, où je vais être heureux comme tout parce que j'y trouve des amis merveilleux, dont Jean-Jacques Bélézy, qui est un ami commun à toi et moi, et les frères Delage et Patrick Tardien, tout le monde joue de la musique. Et là, ils vont me dire, mais dis donc, tu te débrouilles pas mal, viens avec nous. Et là, je vais enfin rencontrer d'autres instrumentistes. C'est incroyable l'effet miroir que ça fait. Tu te dis dans ton coin, mais donc je me suis pas trompé d'accord. Tu sais pas le nom des accords, mais eux, ils te le donnent. Et voilà, et ça y est, t'as, je dirais, premier pied à l'étrier. Tu penses même pas faire des concerts, c'est même pas imaginable. C'est juste que tu prends plaisir tous les jours. Mais alors, quand je dis plaisir, je tiens à le dire absolument aux gens qui nous écoutent, c'est que avant toute chose, avant de faire plaisir aux autres, la musique et l'instrument de musique, c'est se faire plaisir à soi. Et à partir du moment où on se fait plaisir à soi, il peut y avoir une petite chance pour que ça plaise aux autres.
Alors, c'est, j'aime beaucoup ton anecdote, ta rencontre. Moi, j'en ai des similaires. Alors, Jean-Jacques, moi, c'était mon proche cousin, comme mon frère, voilà. Et donc, moi, il y avait le piano Pleyel, donc lui il était violoniste, alors j'ai assisté, voilà. Donc moi la rencontre c'était les notes du du piano, voilà. Donc on a c'est ouais, effectivement le son d'instrument que tu entends, c'est quelque chose. Alors, la deuxième chose que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ton histoire avec l'écriture d'une chanson et avec l'envie de les écrire toi-même, parce que je suppose que tu as commencé par chanter celle des autres. Tu nous parlais de John Baez, ça m'étonnerait que tu n'aies pas chanté du John Baez. Mais après, alors j'aimerais savoir.
L'album Diamond and Rust, je connais par cœur. Je connais par cœur. Sylviane, ma grande sœur, me faisait manger tout ça à longueur de journée et je m'en imbibais. Mais parallèlement, j'aimais aussi beaucoup Paul Naref, qui a été le déclencheur absolument énorme dans ma vie, avec sa voix perchée aiguë. Et l'écriture a commencé à me toucher avec Dick Annegarn, et puis il y avait un Allemand qui s'appelait je ne sais plus comment, et qui chantait très très bien en français. Alors, l'écriture, voilà, on va prendre ma vie depuis le début. J'ai des parents mélomanes et musiciens qui vont donc m'imbiber de musique. Si je m'empare de la guitare de ma sœur, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis déjà musicien dans ma tête. Donc ça, la première chose que j'ai avant la musique, avant la guitare, c'est la voix. Je vais chanter à tue-tête en permanence et tout le monde m'y encourage. C'est-à-dire jamais personne ne va dire « Oh, Joël, ça fait du bruit ». Je vais chanter, mais à tue-tête. Je me souviens très très bien dans la caserne militaire où j'étais à un moment donné, la caserne Beaupuis à Limoges, mais je chantais, je n'arrêtais pas, je devais les saouler. Voilà, ça c'est la première découverte de ma vie. La deuxième, c'est l'instrument de musique. Ça c'est un très très gros morceau. Et puis, il y a l'angoisse de la page blanche, c'est pour ça que je réponds à ta question par rapport à la chanson. Parce que moi, mes premières chansons, c'est... Je sais plus, tiens. Il y en a qui naissent beaux, moi je suis né du phare, et je glisse sur l'eau, et je glisse sur l'eau. Il y en a qui naissent forts, moi je suis né du phare, je glisse sur je pars tout de suite sur du yaourt. Et je retombe sur. Enfin bref, c'est très léger comme écriture. C'est Foulquier d'ailleurs va me dire, je lui fais une improvisation à Pollen qui dure là-bas à La Rochelle, qui dure genre 6 minutes mon tremble. Ça le saoule et il dit dans le micro, il dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet oiseau? Voilà ma première rencontre. Je tire un grand trait parce que je vais écrire ma première chanson, c'est Il s'adore. Va suivre ensuite Un nos frères marron, etc. Mais là où il y a vraiment où je rencontre mon écriture, c'est après un choc émotionnel où on a fait tomber mes tours Gauguin à Limoges. C'était mon troisième HLM qu'on faisait tomber, dont une caserne aussi de militaires. Donc trois lieux où tu as vécu, qu'on fait tomber, tu vois. Et là,
tes tours à toi.
Mes tours à toi, à moi, exactement. Et là, je vais... l'après-midi, voir tomber les tours avec mon fils Simon. Je verse ma larme, il me tient par l'épaule, on rentre comme des petits crabes. Des milliers de personnes qui rentrent comme des petits crabes dans leur voiture et qui repartent. Ça, c'est pas la joie du « ouais, c'était chouette, ça a bien marché ». Non, non, il y a des tas de gens qui sont meurtris profondément. Je rentre chez moi et là, je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais j'ai un choc émotionnel. Je vais mettre à écrire, comme un dingue, pendant 15 ans. Tous les textes que j'avais mis en route, je les finis, les nouveaux, je les finis immédiatement. Un mot qui passe à sa place clignote et me dit « Non, je ne suis pas à ma place ». Enfin, il y a une espèce d'évidence. Voilà, tout ça pour faire le tour de la chanson et te dire que, eh bien, il m'aura fallu une vie pour que ce qui me plaît le plus, la chanson, voix, instrument, écriture existe vraiment.
Tout devient à sa place.
C'est ça. Tout prend sa place. Pendant 15 ans, je souris de bonheur à jouer avec les mots. J'ai mûri, j'ai grandi, j'ai mieux compris ce qu'il voulait dire. Et si je m'arrête sur un texte d'un autre, hein, ça m'arrive, et je dis, ah ben tiens, celui-là, j'aimerais bien le chanter. Alors j'appelle l'auteur, etc., où on est copains. Il ne reste pas moins que mes bébés à moi, ben quand j'en boucle un, d'abord il ne bouge plus, c'est fini, il est verrouillé. Ça m'a toujours épaté. Et d'autre part, je considère que dans ce que je n'ai jamais cessé d'aimer, la chanson, ben c'est fait, elle est faite. Elle est faite, elle existe.
Ils s'adorent, ils disent qu'ils s'aimeront à la vie, à la mort. Ils s'adorent.
Quelle chanson! C'est une chance incroyable. Qu'est-ce qui t'est un truc qui t'était venu du ciel directement, c'est ça?
C'est exactement ça. Il faut savoir que cette chanson s'appelait au départ « C'est comme ça le lundi avec Nini ». Donc je m'étais dit, tiens, on est tout le temps décalé. Quand il y en a un qui est dehors, l'autre est dedans, etc., etc. Ça, c'est parti de ça. Et je vais fabriquer un petit bout de chanson, mais pas avec la même musique du tout. Je sais pas si je te la chante, si.
Vas-y.
Quand, en voix de tête. Quand elle dort, il lui sourit. Et quand elle vit, c'est lui qui fait le mort. Il la mort, alors elle rit. Et ce décor est le décor de leur lit. Ils s'adorent. Et là, je suis sélectionné par Foulquier et ses copains pour la truffe de Périgueux qui s'appelle aussi les Trophées de Radio France. Première fois, je suis sélectionné. Je dis, mais attends, mais c'est cool, quoi.
C'était en quelle année, Joël?
Oh là là, je sais plus du tout.
Les années 80.
Ouais, c'est ça. On est juste avant le printemps de Bourges, on doit être sur les années 85, je crois. 86. Et donc, je vais décrocher le prix du public. Ce qui me fait très, très plaisir. Même si Foulquier se moque un peu de moi avec cette voix de fossé, une voix aiguë. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vais rencontrer Linda Lemay, avec qui on va vivre des trucs de fou. Parce qu'elle est jeune et moi aussi, on a envie de rire. Et on va faire la fête toute la nuit, toute la nuit. Et on va se retrouver au petit matin dans le bassin municipal de Périgueux avec les gendarmes très sympas qui nous disent bon allez c'est bien on vous a vu hier au soir mais allez maintenant faut rentrer à l'hôtel hein, parce que enfin on rigolait, on pensait qu'à rire, on s'éclaboussait, etc. Ils ont été très sympas. Ouais, c'est ma première rencontre avec Linda Lemay. Voilà.
Alors, la suite de « Ils s'adorent », parce que là, tu nous racontes le début de la chanson, mais donc, ça va être une chanson, c'est une chanson phare, il y a quelque chose qui t'est venu du ciel pour t'illuminer et faire ça, et puis, tu vas avoir une récompense extrêmement importante de la SACEM.
Oui, alors, tout d'abord, tu disais, c'est un truc qui est tombé du ciel, et oui, parce qu'une nouvelle musique débarque. Et c'est celle-là. C'est une descente chromatique à la John Morris. Et d'ailleurs, quand ils vont enregistrer la chanson chez VMA avec Enzo Enzo, un arrangeur m'appelle un jour, je ferme mon piano. Il me dit, Joël, je comprends pas bien, là, comment vous faites la descente chromatique? Je vais lui expliquer la descente chromatique au téléphone. Voilà, c'est assez comique, comme elle est goupillée. Voilà, et donc, il se trouve qu'avec cette nouvelle musique, je vais me faire remarquer, puisque avec mon manager, éditeur de l'époque, on est beaucoup sur Paris, très souvent je fais des rentrées parisiennes, et là c'est le sentier des Halles, etc. Et puis ça finit par, tu sais, on finit par entendre cette chanson, et Enzo Enzo est très très intéressé, elle vient chanter à Limoges, à Jean Le Bail, et elle saute sur la chanson, quoi. Ben, je lui dis, oui, enfin moi j'ai jamais confié mes chansons à l'adoption. Mais comme de toute façon, ma carrière ne décolle pas et que j'ai peur que ce petit bébé reste dans un tiroir, je dis, écoute, vas-y. Et donc, voilà, VMA va s'en emparer, la production, Sarah Jane veut cette chanson. Ils hésitent beaucoup. Il y a le Prest, il y a beaucoup de monde sur cet album, hein. Et puis, à un moment donné, Sarah Jane aurait dit, moi j'y étais pas, aurait dit, bon ben maintenant ça suffit, le single ce sera Il s'adore de Joël Barré, point barre, et avec sa musique. Voilà. Donc, j'avais gagné le cocotier, et je me suis retrouvé programmé aux Victoires de la Musique par l'intermédiaire de Enzo Enzo, qui va l'interpréter. Et on va vendre quand même, je crois que c'est 80 000 albums tout de suite.
Et c'était encore beaucoup.
Et c'était encore beaucoup, ouais. Et ensuite, j'apprends...
La SACEM va te donner le prix de la plus belle chanson d'amour, c'est ça.
Oui, le prix Rolf Marbot. Et alors quand Pierre Achard m'appelle au téléphone, qui est quand même monsieur communication, auteur-compositeur, je lui dis, mais tu te moques de moi, Pierre, là? Mais non, je ne me moque pas du tout de toi, Joël. Tu viens d'être élu à l'unanimité. Quand tu vas savoir qui était là, je vais te dire ça juste après. Et tu es convié pour recevoir ta médaille de la plus belle chanson d'amour de l'année 2002. Je dis, c'est pas possible. Il me dit si, mais je dis l'an dernier c'était qui? Et il me dit, Alain Souchon, je chante un baiser. Oh là là là, là j'ai dit à Nicole, là c'est...
Ça le fait après Alain, oui.
Ça le fait. Et donc je passe des étapes et me voilà convié à cette fameuse journée de remise de médaille. Alors là je suis chez moi, hein. Dans les productions je suis jamais chez moi, je suis à côté de mes pompes. Et là, je suis chez moi. C'est tous les auteurs-compositeurs les plus grands. Hein. C'est Delanoé, c'est Étienne Rodagil, qui ne vient jamais. Mais là, il va se déplacer. Alors, Pierre me dit, tu te rends pas compte qu'Étienne se déplace? Il m'a parlé, Philippe. Étienne Rodagil, il m'a parlé 10 secondes. Il tenait un portable dans l'oreille. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit, super la chanson. Le texte, super. Et il s'est tiré. Pierre m'a dit, il ne vient jamais à la SACEM. Jamais. On ne le voit jamais. Alors attends.
Joël, faut rappeler, parce que tu sais, tout le monde ne sait pas forcément qui était Étienne Rodagil. C'est l'auteur des chansons de Julien Clerc.
Avec Maurice Vallée, que j'ai reçu ici plusieurs années, à Couzex. Étienne Rodagil, je n'ai pas reçu, hein. On n'était pas amis et le seul contact que j'ai eu, c'est ça. C'était les deux grands auteurs de Julien Clerc, que j'ai toujours adoré d'ailleurs. Quand je vois la vie que j'ai eue, je me dis, mais mon Dieu, que j'ai été gâté. Et ce jour-là, tous les grands auteurs de France étaient là, Et, cerise sur le gâteau, les deux dames, Senlis et Delescluze, toutes vieilles, toutes mignonnes, ont voulu être photographiées avec moi. Alors, il faut quand même savoir que Senlis et Delescluze, c'est elles qui ont écrit « Moi, j'essuie les verres au fond du café » pour Piaf. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est juste des monuments, quoi. Des monuments absolus. Donc, je suis reparti dans mon train à Limoges, un peu saoul et ivre de tout le champagne que j'avais bu, mais surtout, j'avais des larmes de bonheur, quoi. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie.
Écoute, c'est une anecdote. Alors, incroyable. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je crois que tu dois encore te penser pour dire est-ce que c'est vrai, hein, est-ce que c'est vraiment vrai. La suite de la chanson, ce que ça te rapporte encore en notoriété et pas que, parce qu'il y a encore quelques petits droits d'auteur qui doivent encore ruisseler gentiment.
Alors, il se trouve que Enzo est parti en tournée mondiale dans ce qu'on appelle les centres culturels français à l'étranger, où très souvent des francophones, mais aussi des non-francophones, se retrouvent, je dirais, un petit peu dans une diaspora française et côtoient des salles de concert et des radios communes. Et donc, elle a diffuser la bonne parole Joël Barré sur toute la planète. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui je touche encore des droits d'auteur du Japon, de Chine, de Russie, de partout.
Joël, donc sur cette troisième partie, on en avait parlé un petit peu en préparant cette interview. Tous les gens que tu as rencontrés, que beaucoup connaissent ou auraient eu envie de rencontrer, avec qui tu as échangé, dont tu as fait les premières parties. Voilà, je voulais donc, il y en a quelques-uns dont Renaud, Morane, Linda, Lemay, tu en as parlé, et beaucoup d'autres. Donc j'aimerais que tu nous racontes comme ça, au travers de ces rencontres, finalement une partie de ton parcours, de ton fil de carrière.
Oui, ça, c'est ce qui a émaillé ma vie de chanteur, puisque j'ai évidemment très vite été, grâce au Printemps de Bourges, je suis un enfant du Printemps de Bourges qui m'a propulsé, monsieur première partie, pour être simple. Et donc, j'ai appris le métier en chantant comme ça avec mes amis musiciens. J'ai eu différents équipages, différentes périodes, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de premières parties. Je n'ai fait même que ça. Et donc, parmi ces premières parties, y avait Renaud, il y avait Cabrel, il y avait Morane, il y avait... voilà. Et puis, au-delà des premières parties, il y avait aussi des programmations au Canal Saint-Martin, dans des petites salles, où tu tombes sur James Arch, qui a créé le Bus Palladium. Tu rêves, quoi, tu rêves, tu dis, c'est pas possible. Si, si, t'es en face de James Arch, qui te programme une semaine au Canal Saint-Martin, comment il s'appelle ce petit lieu ultra connu, enfin bref. Et pendant une semaine, alors, et là tu vas croiser le tout Paris, parce que forcément, au-delà des Sentiers des Halles, Théâtre de 10 heures, Ciné-Théâtre 13, où j'ai fait beaucoup de rentrées parisiennes, là, tu te trouves dans un petit lieu où débarque, par exemple, Pierre Barou.
Ah, Pierre Barou. Alors, il faut que tu nous dises la chanson de Pierre Barou. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui a marqué et dont tout le monde se rappelle.
Toi et moi, Wabadabada, etc.
Donc, un homme, une femme, la chanson du film de Claude Lelouch.
Claude Lelouch. Juste un chef-d'œuvre, quoi, une merveille. Ça fait partie des rencontres aussi belles que de Michel Legrand et... comment s'appelait-il, j'ai un trou de mémoire, Les Demoiselles de Rochefort, etc. Jacques Demy. Là, ça, pour moi, c'est des rencontres absolument hallucinante. Et là, j'ai la chance d'avoir Barou en face de moi. Il aime bien ce que je fais, il me le dit, il me fait asseoir sa table. Et puis ensuite, eh bien, il m'emmène chez lui. Et donc, il habite le quartier latin. Et chez lui, il y a son épouse du moment, une dame japonaise. Il faut rentrer chez les artistes pour le croire. Qui sculpte en direct. C'est-à-dire, je rentre et je rentre dans le cabinet, enfin dans l'atelier d'une sculptrice. Et il y a des morceaux de plâtre, de pierre partout. Et Pierre, il est tout à fait étonnant parce qu'il filme tout le temps. Il filme tout le temps avec des petites caméras qu'il a sur lui. Il filme tout. Il filme sa femme, il me filme moi, il me fait... Et donc, c'est quand même incroyable, quoi. Cet homme qui a créé des musiques extraordinaires, très populaires et très simples. C'est là où c'est fort de composer des musiques simples, populaires et donc universelles. Ben, je l'ai en face de moi et puis il me parle tout à fait gentiment. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Morane, une rencontre merveilleuse.
Alors, Claude Morane, parce qu'elle nous a quittés il y a quelques années, mais elle a laissé une empreinte forte, une voix incroyable, une dame avec d'une grande simplicité, mais avec un discours, je dirais, assez fort, assez ferme, voilà, et puis sa simplicité.
Oui, une vraie personnalité. Un jour, je suis invité par Jean-Claude Barrens au Festival de Marne, et il me fait un très très beau cadeau, c'est la première partie de Morane. Donc, je passe les détails. À un moment donné, je vais aux toilettes, au deuxième sous-sol, et donc je me mets à siffler, non, je me mets à chanter Bagdad Café. J'avais quand même une voix...
Mais vas-y, fais-en, tu veux pas nous en...
I'm calling you. Voilà, etc., etc. Tout le monde connaît la chanson. Mais ce que je ne m'attendais pas, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Morane, qui vivait avec son choriste à l'époque, un de ses choristes, se mette en rang comme ça, pour me faire une petite surprise, et harmonise cette chanson alors que je sortais des toilettes. Et on a chanté la chanson jusqu'au bout, bien sûr, mais c'est des moments inoubliables. Inoubliables. C'est vraiment... Comment imaginer qu'il puisse m'arriver un truc pareil, quoi. Et ma vie n'était maillée que de choses et de souvenirs comme ça.
Renaud ?
Alors, Renaud, c'est l'authenticité. Donc, me voilà à faire sa première partie. Je vois qu'il s'intéresse à ma première partie. Jamais aucun artiste ne s'y intéresse. Lui, il veut savoir comment ça fonctionne, mon système. On n'a que trois sur scène. On fait un barouf du tonnerre de Dieu. Et on est très malin sur les programmations. J'avais un programmateur à l'époque fabuleux, Olivier Landriève. Ah, il dit, les gars, c'est vachement bien ce que vous faites. Bon, je dis, ok, il est gentil, c'est bien. Et puis, je fais ma première partie avec mes amis musiciens. Ensuite, je me retrouve dans la salle à l'écouter. Là, je suis complètement bouleversé pendant une heure et demie. J'ai les larmes aux yeux par sa poésie. Et je vais, comme d'habitude, quand je fais des premières parties d'artistes célèbres, je fais le tour et je les accueille au sortir de scène pour quand même les remercier de m'avoir reçu. Hein. Et puis... une espèce de renvoi d'ascenseur, quoi. Je les attends en sortie de scène et il y a une petite anecdote, c'est que je fais à Renaud, je lui dis je me plante devant lui et il me fait alors, c'était comment ? Mais je dis, tu rigoles, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas me dire c'était comment alors que je viens de pleurer pendant une heure et demie, quoi. Tu m'as mouillé les yeux pendant une heure et demie et tu me demandes, ah non, parce que j'ai une nouvelle équipe. Alors en fait, c'est la vérité. Il n'était pas à l'aise, il avait de nouveaux musiciens, etc., etc. C'était un nouvel album. Mais quand même, Monsieur Renaud me demandait si ça allait. C'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. Alors,
j'aime beaucoup ton anecdote, parce que j'en discutais avec mon ami Christophe de Beaulieu il n'y a pas longtemps. On parlait des voix, et ce n'est pas la plus grande voix de la planète, Renaud. Mais alors, quelle émotion. Et là, c'est ce que tu racontes, finalement. C'est pas un monsieur qui allait te chanter 6 octaves et puis te faire des grandes voix lyriques. Par contre, il y a une émotion qui pèse chaque fois, qui l'ouvre la bouche, qui est incroyable.
Oui, c'est une erreur que j'ai pu faire dans ma vie. C'est comme j'ai été très, très frappé par le talent de Polnareff et des gens à forte voix et qui montaient dans les aigus, etc. J'ai un petit peu négligé les artistes comme Renaud, qui n'étaient pas des artistes à voix. Mais c'est ce que permet la chanson, c'est cette diversité absolue. Où le gars il peut chanter comme ça, ta-ta-la-la. Je dirais même que jamais j'ai entendu Renaud chanter aussi faux, jamais. Même sur ses albums, c'était correct. Là, c'était impensable. Mais il a une telle façon de maîtriser le verbe et le vers, et ses rimes sont tellement touchantes et populaires et simples qu'il m'a accueilli à chaque chanson. Et oui, c'est certainement un de mes plus beaux moments de première partie. Oui.
On parlait de Linda Lemay tout à l'heure. Moi, je me rappelle d'une émission où on lui demande de chanter du Renaud. Alors elle avait une chanson qu'elle préfère. Toi, ta chanson, alors c'est en cloque et elle le chante magnifiquement bien. Toi, ta chanson préférée de Renaud, ça serait laquelle?
Moi, c'est l'histoire de Mimi. J'adore.
Tu nous en fredonnes un petit bout, tu te rappelles?
Je sais pas. C'est l'histoire de Mimi. Mimi et Nana pour les intimes. Je la sais pas.
Il n'y a pas de piège, Joël. Mais c'est intéressant de voir. Oui.
Je retrouverai ma Violette, ses belles mirettes, son corps de fête, que j'endimancherai d'un costume de baiser. On a d'abord fait les perceptions, les banques, les allocations. Oh, enfin, c'est génial, quoi, quand il dit les pauvres riches, il faut les sauver, parce que enfin, c'est extraordinaire.
C'est
extraordinaire.
C'est un verbe incroyable.
C'est énorme. Évidemment, tous ces gens-là sont mes maîtres. De Victor Hugo en passant par je le fais exprès hein, Renaud, on a une richesse d'écriture en France, en francophonie, qui est absolument énorme.
Alors Joël, en aparté, tu me racontais quelque chose une très très jolie histoire de tes débuts finalement. Tu rencontres à Gay-Lussac à Limoges un monsieur avec qui tu vas partir faire la Manche. Et raconte cette formidable anecdote qui est quand même assez incroyable sur son déroulé.
Oui, parce que je repensais ces jours-ci à la chance que j'avais eue et les chances que j'ai eues. Et la première chance magnifique que j'ai eue, c'est qu'un jour, en chantant dans un petit centre culturel Limougeau à Jean Massé, j'ai 15 ans, j'ai un banjo sur le ventre et je chante une vieille chanson de Doc Watson, « As I went down in the valley to pray », etc. Et là, je rencontre Bernard Rayon. Bernard Rayon, il a 7 ans de plus que moi, et puis en plus, il a surtout un amour de la chanson folk. Il joue lui-même de la guitare, il chante bien. Et il a, en plus de ça, le permis et une voiture. Et il va me proposer de faire la Manche. Et me voilà parachuté à Notre-Dame-de-Mont. On a tous des points communs avec la famille de Lage, qui sont déjà absolument adorables, qui vont nous accueillir. Et puis, comme tout le monde fait des bracelets, des machins, des trucs, on est baba cool. On rigole bien, on aime la vie. Puis nous, on dit, on va monter un duo. Tiens, ça serait sympa. Mais comme ça, hein. On réunit une dizaine de chansons. On prend un petit gilet, des petites chemises blanches qu'on achetait au surplus américain, je sais pas quoi, 3 euros, enfin, un truc. Chacun un jean. On était à peu près propre sur nous. Et on a commencé à faire un duo, mais de folie, quoi. C'est-à-dire qu'on nous demandait partout, et on a gagné beaucoup de choses.
Le répertoire, ça mène Garfunkel, voilà. Et puis quoi d'autre?
Alors, dans le répertoire, il y avait du Graham Wright, il y avait du Simon Garfunkel, effectivement. Il y avait aussi du français. Je me souviens plus tout à fait ce qu'on faisait. Il y avait du Yves Simon. C'est très joli. Elle s'appelait Claude. C'était un oiseau. C'était très, très joli. Et on faisait du travail à deux voix. Et on a fait un carton au point que lorsque Alain Souchon est passé à Pornic, Boubouille, qui était l'ancien éclairagiste de... Je rigole parce que c'est la folie, la vie. Qui était l'ancien éclairagiste de Julien Clerc et qui avait la bouffonnerie dans l'intérieur des termes, me dit, mais ça vous intéresserait, les gars, de faire la première partie d'Alain Souchon? Et nous voilà parachutés à Pornic en première partie d'Alain Souchon. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas à me plaindre de ma vie, quoi. C'est carrément un conte de fées.
Quand elle dort, il lui sourit. Et quand elle vit, c'est lui qui fait le mort. La mort, alors elle rit. Et se décore le décor de leur lit. Quand elle sort, il reste au lit. Et quand il lit, elle fait celle qui dort. Elle s'endort au creux de lui. Et son corps devient son corps à lui aussi. Ils disent qu'ils s'aiment à la vie à la mort. Ils s'adorent. Ils disent qu'ils s'aiment à la vie à la mort. Se réveille et oublie toute la veille, s'aime tant encore. Ils sont forts, ils sont pareils, ils regardent du cœur sur leur amour veille. Bouche d'or, bouche de miel, elle ferme le ciel et tire le store. Elle se tord, ils s'émerveillent, perdent un peu le nord, perdent le soleil. Ils disent qu'ils s'aiment à la vie à la mort. Ils s'adorent. Ils disent qu'ils s'aiment à la vie à la mort. Elle lui sourit, mais leur amour est plus fort que la folie. Quand elle dort, il lui sourit. Quand elle vit, c'est lui qui fait le mort. Il la mord, alors elle rit. Et se décor est le décor de leur vie. Ils s'adorent, oh. Ils disent qu'ils s'aiment.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.